La solastalgie.
La solastalgie.
Algie, c'est la douleur. Solast, peut-être un lien avec le soleil.
Le soleil.
Laissez le soleil tranquille, il n'a rien à voir avec notre thème du jour. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Zoom Zoom Zen, l'émission qui se refuse à sacrifier la bonne humeur sur l'autel du savoir. Chaque après-midi ensemble, on s'attaque à une notion qui flotte dans l'air du temps pour s'en amuser et surtout pour la comprendre. Aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez solastalgique? Moi, personnellement, je ne me prononcerai que quand j'aurai compris ce que ça signifie vraiment. Pour l'instant, tout ce que je sais de ce terme, c'est que la solastalgie, c'est une forme aiguë d'éco-anxiété essentiellement liée au réchauffement climatique. Alors, c'est sûr, moi qui vis le souci de la planète chevillée au corps, qui me nourrit exclusivement de graines germées que j'achète en vrac au Biocoop et qui milite pour qu'on installe des toilettes sèches dans l'open space de Zoom Zoom Zen, je suis clairement solastalgique. Mais vous, dans une heure, vous serez fixé.
Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Pour m'épauler dans notre quête solastalgique, ils sont déjà plus qu'un binôme professionnel, presque déjà un couple. On accueille Manon Mariani et Quentin Lui.
Bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
C'est fou la vie.
Non.
Il y a encore 10 jours, elle ne croyait plus en l'amour, forcément elle était sur Tinder. Lui non plus ne croyait plus en l'amour, forcément il était en couple. Et puis paf, le coup de foudre. Professionnel d'abord, faut comprendre Manon, c'est pas tous les jours qu'on rencontre l'homme qui a presque interviewé Brad Pitt.
C'est vrai.
La suite, ma foi, ne regarde que clin d'œil complice en conférence de rédaction, ploti-plota dans les sanitaires du 6e.
Oh,
je n'en dirai pas plus, car je respecte le jardin secret de mes collaborateurs. Manon, maintenant que vous n'êtes plus parasité par tous ces crushs que vous receviez sur adopteunsugardaddy.com, vous avez plein de temps pour vous balader sur les réseaux sociaux et dénicher pour nous le phénomène dont on parlera demain.
Oui, on reste dans le thème Sugar Daddy puisque je vais vous parler d'OnlyFans. Aujourd'hui, l'application qu'on appelle le temple du porno et qui cartonne tout. J'en parle parce qu'on vient d'apprendre que son créateur a gagné 500 millions de dollars l'année dernière et je vais vous expliquer pourquoi c'est pas si étonnant.
Personnellement, je ne connais pas ce site. Face à vous, Manon, c'est essayez de le regarder comme ça, on n'a dit pas avant. Celui qu'on peut déjà raisonnablement appeler votre Quentin. Un journaliste de terrain dont le travail vous préservera toujours de la routine puisqu'il est constamment en déplacement.
C'est
Quentin,
vrai.
Vous sillonnez pour nous la France et toujours un micro France Inter à la main.
Oui, et je suis allé au bord de la mer pour parler de la solastalgie à Granville, précisément en Normandie. Granville, c'est mouette, son port de plaisance et son casino pour un micro complètement à la rue.
Alors, c'est connu, tous les couples s'engueulent. Quentin et Manon n'échappent pas à la règle, surtout quand vient l'heure du quiz. Quentin s'entêtera-t-il dans la voie de l'humiliation et de la médiocrité.
J'ai pas dit mon dernier
mot. Réponse dans le Zoom Zoom Test. Ce sera vers 16h30. Et puis en toute fin d'émission, ne manquez pas notre séquence. Moi, ce que j'en dis, le regard forcément décalé d'un humoriste sur notre mot du jour. Cet après-midi, plus qu'un regard décalé, un regard suisse avec l'excellent Yann Marguet, le seul Suisse doté d'un prénom breton. Hâte de vous le présenter, mais d'abord, accueillons celle sans qui cette émission ne serait pas. Notre femme de la situation, Alice Desbiol, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes médecin, Alice, auteur d'un livre intitulé Éco-anxiété, vivre sereinement dans un monde abîmé. Chez Fayard, on va faire très simple pour commencer. Solastalgie, éco-anxiété, c'est quoi la différence si tant est qu'il y en ait une?
Alors l'éco-anxiété et la solastalgie sont deux états d'âme, deux sensibilités, deux rapports au monde qui proviennent finalement d'une conscience de tous les désordres environnementaux qui nous percutent. Donc ça peut bien sûr être lié au dérèglement climatique, à l'effondrement de la part sauvage du monde, à la déforestation, à la pollution, enfin voilà, toute notre manière d'habiter le monde et qui finalement conduit d'une certaine manière à l'abîmer aussi. Et donc toutes les émotions que cette prise de conscience-là peut générer, tous les questionnements qu'elle peut entraîner prennent donc le nom d'éco-anxiété ou de solastalgie. Hein. Solastalgie, ça vient de solacium en latin, qui veut dire réconfort, et donc littéralement c'est la perte de réconfort que l'on peut normalement retrouver au contact notamment d'un lieu qui nous est cher. Et donc finalement le parallèle moi que je fais pour expliquer un petit peu la solastalgie, c'est que la solastalgie c'est un peu comme un mal du pays, sauf que le mal du pays c'est le pays qui nous quitte, là où la solastalgie c'est le pays que l'on quitte. Le mal du pays c'est le pays que l'on quitte et la solastalgie c'est le pays qui nous quitte, pardon.
C'est bon, vous l'avez bien noté? Vous l'avez dans le bon sens, tant mieux. Alors Alice Desbiol, vous ne bougez pas, on va voir ensemble ce que ça signifie concrètement d'être solastalgique, comment se soigner aussi. Juste avant, on a rendez-vous avec un groupe qui, il y a longtemps déjà, rêvait d'un autre monde. C'est Téléphone sur France Inter.
France Inter.
Aujourd'hui dans Zoom Zoom Zen, on zoome sur le phénomène de l'éco-anxiété et plus particulièrement celui de la solastalgie. Et pour connaître la généalogie de ce très beau mot, nous avons rendez-vous avec un individu totalement hermétique au concept d'éco-anxiété. Lui, les rivières qui s'assèchent, la banquise qui fond, les lamentins qui clament, il s'en cogne, il s'en tamponne le coquillard, pour reprendre ses mots. Tant qu'il pourra s'envoyer des côtes de bœuf peinard, il restera résolument optimiste. Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Noël.
Alors Cyril, vous avez noté qu'il ne dément pas. Cyril, vous êtes notre rédacteur en chef et vous connaissez la citation célèbre « Un grand pouvoir appelle de grandes responsabilités », Spider-Man 1. C'est donc à vous que revient celle de nous renseigner sur l'origine de notre mot du jour.
Le stress et la précipitation sont les ennemis de l'homme moderne.
C'est tout à fait exact et je suis un homme moderne. Ce stress, on le sait, se manifeste de diverses manières. On le nomme aussi de différentes façons selon comment il nous affecte. Depuis peu, un nouveau terme a donc émergé, la solastalgie. Une manière de mettre un mot sur de nouveaux mots, mais alors d'où ça sort? C'est le philosophe australien Glenn Albrecht qui est le premier à avoir utilisé le terme de solastalgie, un mot que ce spécialiste de l'environnement décrit comme un sentiment de nostalgie que l'on ressent même lorsqu'on est chez soi à cause de la transformation de la planète.
Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre ma servante et terminer bonsoir.
Nous sommes en 2003.
Vous avez carjaqué.
Pardon. Excellente référence, Mathieu Noël.
Bien sûr, Dick.
Nous sommes en 2003 et donc quelqu'un vient de pointer du doigt un trouble encore balbutiant. Glenn Albrecht explique son travail et se veut presque rassurant, je le cite. La détresse solastalgique est parfaitement normale. Elle indique que vous avez un lien puissant avec votre environnement et que vous souhaitez le conserver. Mais si cette détresse est normale, elle n'en reste pas moins une détresse. Il faudra pourtant attendre plus de 15 ans pour que le terme de éco-anxiété qui découle de la solastalgie voit le jour dans les médias. Et oui, ce n'est pas toujours simple de faire comprendre ses sentiments. Oui Mathieu, moi aussi j'ai un cœur. Vous me voyez tout puissant, mais
oui.
Moi aussi j'ai mes doutes.
Vous voyez tout puissant. Oui.
Je me demande si une semaine après la rentrée, je ne développe pas déjà une Noël anxiété.
Viens dans mes bras, ma princesse.
Non, laissez-moi, c'est trop tard. Je me suis égaré, j'en reviens à notre sujet du jour, la solastalgie. Alors que déjà un autre mot commence lentement à entrer dans le vocabulaire des spécialistes. Ah. Un mot pour traduire la colère face à la destruction de la planète. Terra furie, terre, fureur, l'envie de tout casser.
Quelle histoire ça aussi.
Merci, la Terra Furie. Merci Cyril Lacarrière. On va en parler avec notre invité, le docteur Alice Desbiol. Alice, j'aurais voulu détendre un peu l'atmosphère, mais il y a une étude qui a été réalisée auprès de 10 000 jeunes de 15 à 24 ans du monde entier qui révèle qu'ils sont quand même 45% à se déclarer éco-anxieux et 75% jugent l'avenir effrayant. Ils sont même 56% à penser que l'humanité est condamnée. Face à ces chiffres qui n'incitent pas vraiment à l'optimisme, on fait quoi ?
Alors déjà, précisons que cette étude présente, elle est très intéressante, mais elle présente quelques limites, hein, puisque les jeunes qui sont interrogés ne sont pas forcément représentatifs de tous les jeunes du monde. Hein, donc ça, je pense qu'il faut mettre une première limite. Et effectivement, il faut préciser néanmoins que si l'éco-anxiété, la solastalgie sont des états d'âme qui peuvent traverser toutes les couches de la société, puisque les enjeux environnementaux nous concernent tous. Hein, donc il n'y a pas de raison qu'il n'y ait qu'une seule frange de la population qui se sente concernée par ces enjeux-là. Mais néanmoins, c'est vrai qu'en ce qui concerne, on va dire, les personnes les plus jeunes dans notre société, du fait de leur horizon temporel, qui est beaucoup plus long que celui de personnes plus âgées, elles vont effectivement être plus, pour certaines en tout cas, plus sensibles à ces questions-là, puisque forcément, leur espérance de vie étant de fait plus longue, toutes les prévisions des scientifiques et toutes les conséquences des décisions que l'on prend ou ne prenons pas aujourd'hui vont avoir un impact finalement direct pour ces personnes-là.
Manon Mariani, les jeunes, ça vous connaît?
Oui, ça me connaît bien. Oui. Sur les réseaux, on voit pas mal justement de jeunes qui partagent des vidéos par exemple de Greta Thunberg qui parlent d'éco-anxiété. Mais on a l'impression qu'ils sont souvent moqués par leurs parents qui ne sont pas compris comment ils pourraient faire pour leur expliquer ce qu'ils ressentent.
Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs écueils en ce qui concerne les jeunes, entre guillemets. Soit on va les voir comme des sauveurs providentiels sur qui on peut faire reposer toute la charge. On entend beaucoup aussi des personnes peut-être un peu plus âgées qui vont se délester sur leurs épaules en disant de toute façon, heureusement, les jeunes sont là. Ouais. Donc de toute façon, moi je ne peux plus rien faire, moi c'est foutu, on a fait n'importe quoi. Donc, voilà. Ou alors au contraire, effectivement, une certaine forme de moquerie. Voilà, on ne va pas forcément les prendre au sérieux, mais ça c'est un écueil aussi que l'on retrouve souvent hein, dans les sociétés où on va moins considérer la parole des enfants ou des personnes plus jeunes, malheureusement. Et au final, on retrouve assez peu d'adultes ou de décideurs pour s'engager à leur côté. Et c'est peut-être ça, finalement, la meilleure manière de réconcilier comme ça toutes ces générations et notre société, peut-être aussi autour de ces enjeux-là essentiels qui peuvent fédérer, pour peu qu'ils soient conduits, bien sûr, de manière démocratique et éclairée.
Quentin, lui.
Vous disiez que voilà, les parents pourraient dire le combat est perdu pour la planète. Moi, j'ai beaucoup entendu dans la rue en me baladant que c'est pas la planète dont il faut s'inquiéter, qu'elle en a vu d'autres, la planète, qu'elle va s'en sortir autrement. C'est plutôt l'humanité le problème. Alors, la solastalgie, c'est pour la planète ou pour l'homme ?
Effectivement, c'est Claude Lévi-Strauss hein, dans Triste Tropique hein, qui disait « Le monde a commencé sans l'homme et s'achèvera sans lui ». On verra bien. Effectivement, donc l'éco-anxiété, la solastalgie, c'est, on va dire, que la porte d'entrée. Ce sont bien sûr tous les désordres globaux, tous les désordres environnementaux, mais il ne faut pas oublier, puisque c'est aussi une dimension de cette éco-anxiété, de cette solastalgie, l'impact sur les sociétés humaines, l'impact aussi en termes de justice sociale, en termes de migration, de conflits, de paix, d'inégalité. Donc c'est vraiment... Une sensibilité systémique et globale
c'est
par
lié.
Rapport à tous les désordres du monde. Il y a les dommages environnementaux liés aux activités humaines destructrices et leurs conséquences sur les individus, sur les communautés, sur nos sociétés.
Alice Debel, vous êtes, je le rappelle, docteur. Il y a quelque chose qui se rapproche de la dépression dans la solastalgie. C'est une forme de sentiment dépressif un petit peu. Est-ce qu'on peut l'identifier facilement ? Est-ce qu'il y a des symptômes qu'il faut repérer chez des gens autour de nous ? C'est-à-dire, tiens, toi, t'es un peu solastalgique, faudrait peut-être consulter ou réfléchir à ça. Ou est-ce qu'on peut être solastalgique sans le savoir ?
Alors effectivement, dans cette solastalgie, il y a tout un panel d'émotions qui vont de la tristesse à la colère, au sentiment d'impuissance, parfois de culpabilité, à l'impression aussi d'avoir été floué, hein, qu'on peut retrouver beaucoup peut-être chez les adolescents ou chez les plus jeunes. Mais il faut bien voir que ces émotions ne sont pas pathologiques. On a le droit d'être triste, on a le droit d'être en colère, ce n'est pas pour autant que l'on va être malade. Donc l'idée, ce n'est pas de pathologiser des émotions, de pathologiser un état d'âme ou une sensibilité au monde.
Est-ce que dans la solastalgie, dans ce concept, est inclus le côté fossé générationnel ? Parce qu'on a l'impression quand même qu'il y a un problème entre les jeunes qui sont plutôt éco-anxieux et leurs parents qui le sont nettement moins. Et qui, comme vous le disiez, disent oh « ben nous on a fait un peu n'importe quoi, maintenant c'est à vous, on verra bien ». Est-ce qu'il y a un ressentiment des jeunes générations envers leurs aînés ?
Alors l'idée, hein, c'est encore une fois, c'est pas forcément de désigner des coupables. Il n'y a pas les jeunes innocentes victimes d'un côté et les personnes un peu plus âgées qui seraient responsable de tous les maux de la planète. Encore une fois, c'est un état d'âme qui est vraiment partagé dans toutes les couches de la société. En tout cas, c'est vraiment les données empiriques dont moi je peux disposer, où on a vraiment ce sentiment que, quelles que soient les catégories socio-professionnelles ou l'âge, on a des individus qui peuvent se sentir concernés par ces enjeux-là. Donc, le fossé générationnel, j'ai envie de dire, il est d'une certaine manière un petit peu artificiel. On va effectivement beaucoup médiatiser l'engagement d'une certaine jeunesse sur ces enjeux-là. Cela ne veut pas dire pour autant que c'est un état d'âme qui est nouveau. Ce qui est nouveau, c'est qu'on ait mis un mot sur ces mots-là, mais les préoccupations liées à l'impact des activités humaines sur l'environnement et toutes les conséquences pour les sociétés humaines n'a rien de nouveau. Dès les années 60-70, on avait déjà des mouvements écologistes qui étaient émergents. On a des publications scientifiques dès le XXe siècle hein, qui alertent sur l'effet de serre. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. Ce qui est nouveau, c'est qu'on le pose effectivement beaucoup plus fortement dans le débat public et qu'on a effectivement une certaine jeunesse qui va s'engager sur ces enjeux-là.
Lui, Alice, il a tout pour être solastalgique, qui sillonne la France en long et en large avec son micro France Inter. Il voit les paysages changer sous ses yeux. Souvent, d'ailleurs, il s'énerve tout seul, apostrophant un ingénieur du son imaginaire.
Ils avaient pensé à installer des cerisiers du Japon tout le long des allées. Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait ? Est-ce que tu crois qu'ils l'ont
fait ? Non mais calmez-vous Quentin, personne avec vous. Et racontez-nous plutôt ce que vous êtes allé faire à Granville cette semaine.
Parce qu'en tapant notre mot du jour, solastalgie, sur Google, vous verrez, hein, si vous faites le test chez vous, vous verrez apparaître des images qui tentent d'illustrer le sujet. Alors on a regardé ensemble, ce sont souvent des photos de personnes assises sur un banc, face à la mer, le regard dans le vide, toute seule, en train de déprimer. Alors on s'est dit, on va aller vérifier à Granville, en Normandie, cette station balnéaire dans la baie du Mont-Saint-Michel qui compte 13 200 habitants et quelques mouettes. Est-ce qu'elle est en déprime, cette station balnéaire ? On va commencer par cette jeune femme, les cheveux blonds, bouclés par l'eau de mer. Elle m'explique qu'elle est au chômage en ce moment, mais qu'elle fait de l'humanitaire pour l'Ukraine. Je lui fais découvrir
la solastalgie. Ce serait une forme de solitude nostalgique. C'est beau. C'est pas ça, mais c'est beau.
La solastalgie.
Je lui explique ce que c'est. En écoutant la définition, je la vois opiner du chef. Elle comprend que la solastalgie, ça la concerne.
C'est marrant parce que nous, on est là en vacances et on voit plein de méduses différentes, des marrons, des blanches. Ici, c'est majoritairement des blanches en fait qu'on voit normalement. Et on s'inquiète justement de voir arriver d'autres types de méduses parce qu'on a le sentiment que la Manche est en train d'être de plus en plus chaude. Là, pendant la canicule, il faisait 25 degrés parfois dans la Manche. Et ouais, et effectivement, ça nous angoisse beaucoup. Ce dérèglement climatique, il est omniprésent et on a le sentiment que seul, on ne peut pas faire grand-chose et que le gouvernement ne fait rien non plus, que l'Union européenne ne fait pas grand-chose non plus. Donc ouais. Mais je pense qu'on est devenu majoritaire, en fait. Hein.
Allez, on fait quelques pas sur la plage et je rencontre un papa et son petit garçon qui profitent d'une après-midi au bord de la mer. Bonjour.
Bonjour.
Quel est votre prénom ?
Julien.
Julien, vous avez quel âge ?
43 ans.
43 ans. Salut, toi.
Oui, bonjour.
Comment tu t'appelles ?
Pierre.
Pierre, tu as quel âge ?
8 ans.
Pierre, 8 ans, à qui je demande de lire ?
La solastalgie. Je sais pas trop ce que c'est, mais j'ai déjà entendu ce mot à la radio.
Alors ce mot-là, ça parle des gens qui ont un peu peur pour notre planète dans les prochaines années. Toi, t'en penses quoi de ça ?
J'en pense qu'ils ont raison. Parce que moi, ce qui me fait surtout très peur... c'est le réchauffement climatique et la sécheresse.
Ouais.
Je trouve qu'il faudrait économiser l'eau et
Tu en parles avec tes copains ?
Pas trop, non, on n'en parle jamais en fait.
On n'en parlait pas. Plus loin, en remontant vers le casino qui surplombe la mer, je tombe sur Dominique et Fabrice, deux retraités qui vivent à mi-temps à Granville, tous deux auditeurs de France Inter. Ils me confient d'ailleurs qu'ils ont bien entendu le petit nouveau qui s'appelle Mathieu Noël. Je leur parle de la solastalgie.
Moi, le mot, je ne le connaissais pas, mais avec inquiétude, puisque même si à Granville, on est épargné par... il a fait très beau et très chaud, mais on n'est pas en canicule, on n'est pas sous la canicule. On ne peut qu'être inquiet de ce trop bel été.
Dominique, sa femme, de son côté, a remarqué quelque chose qu'elle ne comprend pas dans cette nouvelle éco-anxiété.
Nous, on a plein de gens dans nos connaissances qui sont jeunes, qui nous font parfois des reproches sur notre responsabilité le désastre écologique. Bon, et qui en même temps ont des comportements. Ils peuvent avoir la voiture électrique, mais ils ont la piscine dans laquelle ils mettent 50 000 litres d'eau, qu'on a la mer à 500 mètres. Pour nous, c'est des choses qui n'ont pas d'intérêt. Quoi.
Je demande alors à Fabrice, son mari, ce qu'il dirait aux jeunes qui souffrent de solastalgie.
Moi, je leur dirais prendre tout ça pour vrai, pour une réalité, mais ne pas rejoindre tous ces discours déclinistes et mais s'engager, quoi, faire quelque chose. Ça peut être des toutes petites choses. Hein. Ici, on voit les écoles mènent des actions pour mieux connaître la plage, voir des vieux comme nous participer au nettoyage des plages ou du sauna chaussée, tout ça, c'est pas mal. Voilà. Faire ça, c'est-à-dire pas couiner, mais faire des choses, qu'est-ce qu'on peut faire ?
C'est un joli mot que notre mot du jour. Il sonne bien, sa définition, beaucoup moins, bien que d'actualité. J'espère simplement qu'on ne finira pas par faire des chroniques complètement à la rue en écoutant de vieilles chansons tristes sur une radio qui s'appellera Solastalgie.
Beau grain de voix, Quentin, beau grain de voix, zoom, zoom, zen, continue. Une heure pour faire le tour d'un phénomène contemporain aujourd'hui, donc la solastalgie, cette forme d'éco-anxiété qui monte dans nos sociétés. On en parle avec vous, Alice Desbiol, vous êtes médecin, je le rappelle, et vous avez écrit un livre sur l'éco-anxiété. On vient d'entendre, sur la plage de Granville, des gens inquiets et ce monsieur qui conseille aux jeunes de s'engager. Est-ce que le remède, presque, j'ai envie de dire, le seul remède à la solastalgie, c'est justement de s'engager pour l'écologie ?
C'est une des pistes, effectivement. On parlait tout à l'heure d'émotion. Émotion, ça vient du latin motio, qui veut dire mouvement, mise en mouvement. Et donc, même si souvent on a tendance à associer un petit peu cette éco-anxiété ou cette solastalgie à quelque chose de noir, de sombre, voire qui va inhiber les individus ou les dévaster, mais souvent, en fait, c'est une forme de prise de conscience qui va être extrêmement positive, puisqu'elle va déboucher sur peut-être des interrogations hein, sur les personnes, sur leur mode de vie, sur leurs aspirations, sur leurs désirs. Elles vont donc se réinventer progressivement. Et effectivement, cet engagement, que ce soit un engagement à l'échelle individuelle, donc à l'échelle du foyer, des choix que l'on peut faire sur la manière, je sais pas, de s'alimenter, sur la destination de vacances, sur le métier que l'on va exercer.
Sur le fait d'avoir une piscine ou pas.
Sur le fait d'avoir une piscine ou pas, sur le fait d'isoler son logement. Enfin voilà, tout ça, c'est la manière dont on va se déplacer aussi. Donc ça, c'est des choix que l'on peut faire à l'échelle individuelle, qui sont déjà une forme d'engagement, qui sont déjà une manière d'apprivoiser cette solastalgie, de la dépasser, de la transformer, d'en faire une force. On peut avoir un engagement à l'échelle aussi plus communautaire. Ça peut être l'engagement, comme là Fabrice le disait, d'aller ramasser les déchets sur la plage, de s'engager dans l'école de ses enfants, de s'engager à l'échelle de son quartier. Ou alors un engagement là beaucoup plus politique, macroscopique, hein, puisque les causes de l'éco-anxiété sont des causes globales, systémiques et internationales qui dépassent la seule échelle d'action d'un individu.
Julien, le papa de Pierre, le petit garçon qu'on a entendu au micro, me disait qu'il parlait avec ses mots à son fils en se voulant rassurant sur le problème de l'écologie, parce qu'il me disait que dans les médias, les mots n'étaient pas du tout appropriés pour les enfants. Quelle est la meilleure façon pour vous d'en parler à un enfant?
Effectivement, ça c'est une question qui revient souvent, et ce que l'on peut observer, c'est que la réaction émotionnelle n'est effectivement pas souvent la même selon l'âge. Et on a un pattern émotionnel qui va être différent selon l'âge. Et chez les enfants, ce que l'on observe, c'est une volonté de bien faire et une envie de se concentrer sur les solutions. Donc en fait, ces constats environnementaux, toutes ces données anxiogènes, je pense qu'il ne faut pas forcément trop insister dessus, mais plutôt se concentrer sur, entre guillemets, les bonnes actions.
Mais
que les enfants peuvent accomplir à l'école,
par exemple,
à la maison. Et il y a beaucoup de joie, en fait, pour les enfants de planter, je sais pas, de faire des petits potagers, de faire bien, entre guillemets. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je pense qu'il faut capitaliser pour les enfants, mais aussi pour les adultes, et peut-être se déprendre un petit peu des constats anxiogènes pour se tourner vers les solutions vers le positif, qui sont d'une certaine manière profondément désirables, pour peu qu'elles soient conduites de manière, encore une fois, démocratique et éclairée.
Alice Desbiols, dans votre livre L'éco-anxiété, vous identifiez aussi, c'est intéressant, des phases dans la solastalgie. Est-ce que vous pouvez nous les décrire sommairement, en insistant bien sur la phase 5, qui moi m'a fait flipper, qui est comparable, je cite, à un deuil, sauf qu'à vous lire, c'est un deuil en pire.
Disons que, comme on l'a vu, hein, c'est vraiment une prise de conscience globale et systémique. Et donc, on va avoir un cheminement des individus qui va être progressif. D'abord, on va avoir, on va dire, une espèce de révélation, de prise de conscience sur une dimension. Par exemple, le réchauffement climatique, c'est la dimension dont on parle énormément. Et progressivement, quand on va creuser le sujet, on va se rendre compte qu'il y a plusieurs dimensions. Comme un corps humain, hein, finalement, le système Terre dépend de nombreux paramètres. Et donc, on va se rendre compte que l'acidification des océans, c'est potentiellement un problème, que le changement d'utilisation des sols, c'est potentiellement un problème. Donc on va passer d'une approche simple à une approche un petit peu plus complexe et ramifiée. Et on va se rendre compte qu'une solution que l'on peut développer, par exemple mettre, je ne sais pas, des panneaux solaires pour essayer de réduire, si on fait ça à la place de forêts, qu'on va déforester pour mettre des panneaux solaires, on se rend bien compte. Voilà. Donc là, on voit aussi toutes les dissonances dans lesquelles on peut se retrouver, où ça va être très difficile de trouver aussi la juste solution, qui nécessite d'ailleurs un débat sociétal, démocratique, pour savoir aussi les choix que l'on va mettre en place et qui seront ceux avec la meilleure balance, on va dire, bénéfice-risque.
Mais quand on parle de sonastalgie, ça a quand même une consonance un peu négative, entre guillemets, enfin limite comme on disait tout à l'heure, de dépression. Vous pensez pas justement que ça crée un effet très anxiogène, et que là vous parlez de chercher des solutions, mais que justement il y en a qui baissent les bras en entendant ce genre de terme, ouais.
Effectivement, alors il faut bien le dire, hein, les informations peuvent être profondément vertigineuses, hein, c'est assez vertigineux quand on commence à s'intéresser à toutes ces questions-là. Et donc effectivement, ce qui guette parfois, c'est une forme de désenchantement, une forme de découragement. À mon sens, c'est un écueil qu'il convient d'éviter, même si parfois ce n'est pas toujours le cas. Et moi, souvent, je distingue, on va dire, la solastalgie adaptative, qui va être une réponse normale, physiologique, par rapport à l'involution du monde et par rapport à tous les mécanismes là dont on a parlé. Et on peut avoir parfois, effectivement, c'est plus rare, mais une forme de solastalgie peut-être un petit peu plus pathologique, où là, on va avoir une souffrance morale qui va être très importante, un retentissement sur le quotidien de l'individu, qui va peut-être nécessiter effectivement un soutien. Mais dans la plupart des cas, passer cette phase un peu vertigineuse, souvent la mise en mouvement, la volonté d'agir et de s'engager va être la plus forte. Et c'est en cela que cette solastalgie constitue finalement une forme de renaissance des individus qui est extrêmement positive.
Alors lui, pour s'engager, il s'engage, un mot du militant écologiste Cyril Dion, qui dit que la meilleure manière de combattre l'éco-anxiété, c'est la créativité. Il est gentil Cyril, mais tout le monde ne peut pas être créatif. Est-ce que vous avez d'autres petits conseils à donner ?
Mais la créativité, en fait, c'est pas forcément une création artistique. Ça peut être aussi la manière, voilà, de créer un quotidien, on va dire, plus en phase avec ses préoccupations. Et donc, d'une certaine manière, c'est être créatif si on va essayer de trouver une autre alternative, par exemple, à sa voiture lorsque c'est possible. C'est faire preuve d'imagination, de créativité, d'adaptation. C'est en ce sens-là que cette solastalgie, cette éco-anxiété peuvent être source aussi d'innovation et de créativité. Moi, je repositionnerai cette notion de créativité dans la vie quotidienne, communautaire ou politique.
Mais sans s'écœurer. Vous le dites aussi dans votre livre, quand vous n'avez pas le temps d'aller au marché et que vous allez dans un biocoop, par exemple, vous prenez les sacs et les emballages qui vont avec parce que vous n'avez pas eu le temps de repasser par chez vous. C'est pas grave.
Non, c'est pas grave. Ce qu'on observe aussi beaucoup, c'est effectivement une hyper-responsabilisation, voire une hyper-culpabilité des personnes déjà un petit peu éco-anxieuses, si jamais elles n'ont pas l'impression de bien faire. Et donc là, on risque une espèce de burn-out avec une charge mentale. Ça risque d'être contre-productif. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose à éviter également.
Une chose est sûre, en tout cas, Alice, solastalgie, c'est beaucoup plus beau que éco-anxiété. D'ailleurs, ça aurait pu être le titre d'une chanson de Juliette Armanet. Je l'ai même appelée pour lui suggérer l'idée. Elle m'a dit qu'elle y réfléchirait. En attendant, voici déjà son nouveau morceau, Boom Boom Baby, Juliette Armanet sur France Inter.
Je veux pas de chocolat, je veux pas de joujou.
Inter, Zoom, Zoom, Zen.
Vous écoutez France Inter dans Zoom, Zoom, Zen. Aujourd'hui, on parle de la solastalgie, l'angoisse de voir son monde s'effondrer. Il est temps à présent d'évoquer la nulastalgie, l'angoisse de voir sa réputation s'effondrer. Nous avons la chance d'avoir avec nous le patient zéro, Quentin Lui. Jouons au Zoom, Zoom, Test. Docteur Desbiol, vous pouvez évidemment, dans la mesure du possible, aider le patient zéro à surmonter sa phobie de la victoire. Mais croyez-moi, de ce qu'on a vu pour le moment dans le quiz, ce ne sera pas facile. C'est un garçon qui ne se lasse pas de perdre. Je rappelle le principe du test, des questions en rafale autour de notre sujet du jour, la solastalgie. Alors bon, comme il n'y avait que trois questions sur la solastalgie, on a un peu élargi à la sauvegarde de l'environnement. Soyez réactifs, top, c'est parti. Je suis Kirikou, non pas le petit personnage chétif mais intrépide auquel Quentin s'est longtemps identifié, mais un collectif de militants écologistes qui a fait parler de lui cet été durant la canicule en menant une opération coup de poing dans un golf du côté de Toulouse. Que s'est-il passé ? Trois possibilités. A. Quelque chose d'inracontable en radio à cette heure-ci impliquant l'utilisation de clubs de golf. B. Les militants ont kidnappé les golfeurs et les ont obligés à écouter du Claude Nougaro. Ou C. Ils ont bouché les trous du golf avec de la superglue.
C'est.
Est-ce que vous êtes sûr de votre réponse ?
Oh bah oui, moi, je suis sûr.
Vous nous mettez en suspense, mais oui, c'est.
Eh bien non. C'était, hélas, la réponse D, que je n'avais pas formulée.
Ah non !
Mais que j'espérais que vous devineriez quand même. Ils ont bouché les 18 trous avec du ciment et non pas de la glu. Ah, décidément, tous les deux, vous n'avez de cesse de me décevoir. Tâchez de vous ressaisir. Top ! De Michael Jackson à Henri Dess, l'environnement est un thème qui a souvent stimulé la créativité des artistes.
La pollution, ce n'est pas bon, il faut tous faire attention.
Parmi ces textes forts, j'aimerais vous en déclamer un. J'ai lu un article pas très cool, ça m'a foutu tellement les boules, je veux pas le lire jusqu'au bout, on est dans la merde jusqu'au cou. À qui doit-on ce poétique pamphlet ? Trois possibilités, écoutez jusqu'au bout. À Mallarmé en 1890 ? À Francis Cabrel en 1983 ou à Angèle en 2022?
Angèle en 2022.
Angèle, oui. Sur son nouvel album.
Alors Quentin, yes. Je vais vous expliquer un truc dans un quiz, ça ne sert à rien de dire oui à Angèle une fois que l'autre personne a répondu.
Parce que vous
que
aviez
de fait,
fini l'énoncé
vous avez perdu. Ah bah oui, parce que j'avais bien fini l'énoncé, n'essayez pas de bluffer, c'est Manon qui marque le
j'ai
point.
J'ai une petite aide de Alice quand même, hein.
Ah, Alice,
vous l'avez
oui. Ah, écoutons, écoutons.
Enfin, moi j'ai pas de...
Pas très cool, j'aimerais bien pouvoir l'oublier. Ça m'a foutu tellement les boules, je veux pas lire jusqu'au bout.
Oui, et nous on va peut-être pas écouter jusqu'au bout, c'est Angèle qui chante devant son petit ordinateur cette chanson visiblement improvisée, on l'espère en tout cas, sur l'urgence climatique. Qu'est-ce que vous dites Quentin ? Rendez-nous Henri Dess ? Personnellement, Rando, je trouve que vous allez un peu loin.
J'ai adoré moi.
Évidemment, indépassable. On reste concentré, top ! Ils disent agir pour le bien de la planète. Chaque nuit, ils se baladent dans les villes pour éteindre les enseignes lumineuses des magasins qui continuent de les laisser allumer. Ils disent vouloir lutter contre cette pollution lumineuse. Comment s'appelle ce collectif dont on sait, par évidence physique, que Quentin, lui, n'en fait pas partie ? Le gang des sauteurs ? Le clan du néon ? Les géants verts ? Ou les nains à ressort ?
Les géants verts.
Les géants verts, je dirais aussi.
Je vous donne l'opportunité d'une autre réponse.
Alors la réponse A.
Le gang des sauteurs. Ne plaquez pas vos fantasmes dans cette émission. Ressaisissez-vous.
C'est pas possible.
Une autre possibilité.
La B.
Le clan du néon. Oui, Quentin, oui. Le clan du néon. Attention, c'est la question qui va décider si Quentin, lui, demeure dans le camp des losers ou si dans un sursaut d'orgueil, il décide de rejoindre le camp de la win. Top ! C'est un chercher l'intrus. Parmi ses inventions pour sauver la planète, laquelle n'existe pas ? Une éponge contre les marées noires ? Une paille pour filtrer l'eau insalubre ou un savon contre le paludisme. Attention mes champions, il y a peut-être un piège.
De base, j'irai la A.
Mais ça peut pas être le savon.
Réfléchissez, si je vous dis qu'il y a un piège.
Une éponge marée noire.
Éponge marée noire, c'est sûr que ça n'existe pas parce que ça a été des
beaucoup
cheveux.
De certitude avec
oui, non,
gauche.
Mais si, les cheveux ont été utilisés pour essayer de capter le pétrole. Donc réponse A.
Manon, je vous laisse l'opportunité de réfléchir à ce que je vous ai dit, à savoir qu'il pouvait y avoir un piège dans se chercher l'intrus.
La paille était pour quoi déjà ?
Il peut y avoir un piège dans se chercher l'intrus, Manon.
Ah, c'est aucune de ces réponses.
Non, c'est,
ah,
non, c'est
notre réponses.
Réalisateur qui lui-même n'a pas compris le principe du jeu. C'est effectivement, c'est que toutes ces inventions existent. La paille qui filtre l'eau a été inventée par une société danoise. Pour moins de 2 euros, cet outil révolutionnaire peut traiter 700 litres d'eau, soit les besoins d'un adulte sur une année. Quant à l'éponge à marée noire,
elle existe alors.
Il s'agit tout simplement, j'y avais pensé mais je n'avais pas eu le temps de déposer le brevet, d'associer évidemment des nanotubes de carbone absorbeurs d'huile. Ça donne une éponge qui absorbe jusqu'à 100 fois son propre poids et qui est réutilisable. C'était bête comme chou, je l'avais pensé mais les Américains, eux, l'ont fait. Qui remporte ce quiz du coup ? Personne, c'est un cas d'égalité, c'est la première fois, on a
bien.
Une égalité dans la loose, on peut le dire, c'est mais
vrai.
C'est quand même pas mal. Bravo donc à tous les deux.
Bravo à Quentin.
Merci, merci à tous.
C'est l'épidémiologiste Alice Desbiol qui nous accompagne dans Zoom Zoom Zen cet après-midi. Ensemble, on tente de comprendre ce nouveau mal qui ronge de plus en plus d'entre nous, la solastalgie. Alors, parmi les personnes frappées par cette forme d'éco-anxiété, Alice, certaines personnes renoncent carrément à avoir des enfants pour éviter qu'ils naissent dans un monde qu'ils estiment perdu. C'est un sentiment, vous comprenez ça ?
Alors, on en parle aussi, effectivement. Ce sont des personnes qui disent qu'elles ne vont pas avoir d'enfants.
Et
qui en ont
finalement.
Ce sont des personnes jeunes. Ben justement, je pense que ce serait intéressant de les réinterroger.
Faire un suivi.
Peut-être dans quelques années, puisque cette infécondité volontaire, hein, elle reste quand même très, très rare en France, très minoritaire, en tout cas d'après les dernières études. Ce serait intéressant, effectivement, à l'aune hein, de toute cette médiatisation sur les dérèglements environnementaux, de voir si on a une infécondité volontaire qui augmente. Néanmoins, je pense qu'il serait très intéressant de voir s'il y a vraiment si ces affirmations sont suivies des faits. Et ça, on n'a pas encore forcément la réponse.
Alice Desbiol, vous dédiez votre livre à votre petit prince. Alors, à moins que votre mari soit une personne de petite taille, c'est que vous avez un enfant. Par moment, quand vous voyez le monde qu'on lui réserve, est-ce que vous vous laissez aller vous-même à un petit coup de solastalgie ou jamais?
Alors, il faut bien voir que une fois que l'on est solastalgique, souvent on le reste, hein, puisque le meilleur moyen de faire disparaître cette solastalgie, ce serait de résoudre les causes qui la provoquent, donc toutes ces causes systémiques dont nous avons parlé. Mais en soi, cette solastalgie, en tout cas pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement positif, puisque loin d'être rongé par une forme de tristesse ou de désenchantement, au contraire, c'est en tout cas pour moi une forme de moteur aussi pour un certain engagement au quotidien. Ça donne aussi, pour moi en tout cas, un certain sens
à la vie,
à l'existence, comment dire, ça peut interroger finalement notre rapport au monde, aux autres et à soi-même. Et en ce sens-là, pour moi, c'est quelque chose de très positif. Donc je ne le vis pas du tout comme quelque chose de tragique ou de triste. Au contraire, c'est encore une fois une opportunité plutôt qu'un problème.
En discutant solastalgie dans la rue, je me suis rendu compte que les passants avaient une forme de déculpabilisation à la française qui revenait, parce qu'on n'était pas les plus gros pollueurs par rapport à la Chine, aux États-Unis. Comment le sujet est-il pris à l'étranger? Est-ce que vous savez si la solastalgie existe par exemple en Chine, où on a vu qu'au mois d'août, les températures la nuit n'avaient pas baissé en dessous des 34 degrés?
On a une préoccupation dans d'autres pays du monde. Hein. Par exemple, en Chine, on a de grosses préoccupations, notamment sur la pollution de l'air. On voit aux États-Unis aussi qu'on peut avoir des préoccupations similaires sur l'environnement. Pareil au Brésil, hein, par rapport à la déforestation, en l'occurrence. Donc, on voit que c'est quand même une sensibilité qui est de plus en plus partagée à l'échelle du monde, avec des spécificités aussi populationnelles selon les dommages environnementaux auxquels les populations vont être plus ou moins confrontées. La déforestation au Brésil, avec tous les problèmes liés à l'Amazonie, vont être plus forts, par exemple, dans cette population que dans d'autres, comme la France, par exemple.
Mais ça va être un mot universel, solastalgie ?
On le retrouve dans les publications, c'est comme éco-anxiété, on le retrouve partout.
D'habitude, dans cette émission, on traite un mot par jour, mais aujourd'hui, je suis d'humeur généreuse. Pour le même prix, deux mots. Cyril Lacarrière évoquait tout à l'heure la notion de terra-furie pour définir la colère extrême qu'on ressent face à la destruction de la planète causée par la société industrielle et technologique. Qu'est-ce qui peut devenir de cette colère-là ? C'est encore un autre stade, ça. C'est autre chose ?
Ça fait partie du panel émotionnel de cette éco-anxiété, de cette solastalgie, tristesse, un sentiment d'impuissance, colère. Et la colère, hein, qui a souvent mauvaise presse, est au contraire, finalement, une forme de vitalité. C'est lorsque l'on est en colère que l'on va aussi avoir envie de changer la cause de ce qui va provoquer, du coup, cette colère-là. Donc, au contraire, la colère qui fait partie de cette éco-anxiété, c'est pour moi un marqueur de notre vitalité qui va signifier une atteinte à notre intérêt, à nos aspirations, à nos espérances, à nos rêves, et qui va aussi être un levier vers l'action. Et cette éco-anxiété, elle peut se manifester soit par de la colère qui va être l'émotion prédominante, soit par de l'inquiétude, soit par de la tristesse, mais il va y avoir autant d'éco-anxiété qu'il y a d'individus concernés. Mais la colère, ce n'est qu'une dimension du spectre émotionnel de cette éco-anxiété, de cette solastalgie.
Alice Desbiol, je vous écoute, je suis évidemment d'accord avec ce que vous dites, j'ai ma carte au Biocop. Néanmoins, il y a une question qui se pose quand même, cette solastalgie, elle se heurte un petit peu au quotidien des Français. Il y a beaucoup de Français qui peut-être n'ont même pas le temps de penser à ça, si vous voulez. Leur question, c'est quand même le pouvoir d'achat, l'augmentation du pot de Nutella. Comment on réconcilie ces deux France où il y a des gens pour qui la solastalgie, c'est presque peut-être un problème de bobo?
Alors déjà, il faut bien voir que tous ces enjeux-là, encore une fois, nous concernent tous, hein, les vagues de chaleur qui nous frappent. Donc on a tous intérêt quelque part, on a tous à y gagner, hein, d'une certaine manière, à réinventer notre rapport au monde et à revoir notre manière de l'habiter. À mon sens, un des écueils dans lequel il ne faudrait pas tomber, c'est de cibler effectivement toutes les actions sur les individus, comme si on était les seuls coupables finalement de cette situation-là. Je pense qu'il y a vraiment tout un panel aussi d'interventions à l'échelle globale, par exemple sur la manière d'aménager nos territoires, sur l'urbanisme, qui ne demande pas forcément d'intervention de la part des individus, mais le fait de végétaliser les écoles, de végétaliser les rues, tout ça c'est... tout ça, cela présente d'énormes co-bénéfices en santé et en environnement. Le fait de végétaliser un espace, au-delà d'avoir bien sûr un bienfait positif sur le climat, cela va rafraîchir l'air, cela va créer de l'ombre. L'ombrage, hein, c'est un très grand facteur de protection contre les UV qui sont un facteur de risque de cancer. Cela va dépolluer l'air, cela va offrir un air de meilleure qualité, ça va améliorer aussi la santé mentale. Donc on voit bien qu'au-delà de finalement l'intérêt positif sur la dimension, par exemple, des règlements climatiques, on a des co-bénéfices aussi en termes de santé, en termes de bien-être, qui ne demandent pas d'intervention de la part des individus. Donc je pense que l'écueil dans lequel il ne faudrait surtout pas tomber, c'est de culpabiliser les individus, de les restreindre, de les contraindre, au lieu de mettre en place, en fait, des solutions désirables sur notre manière d'habiter le monde, par exemple.
En tout cas, le terme éco-anxiété est vraiment dans l'air du temps, puisqu'entre 2020 et 2021, les requêtes sur le moteur de recherche de Google à propos de l'éco-anxiété ont augmenté de 565%. Est-ce que ça, c'est vraiment un signe que ce trouble devient une préoccupation mondiale ? On peut plus y échapper.
Alors effectivement, moi quand j'ai commencé à m'intéresser à la question, j'ai fait, je crois que ce qu'on fait quasiment tous maintenant, j'ai tapé le mot sur Google. Effectivement, j'ai eu zéro occurrence sur ce Solastalgie.
Ça a bien changé.
Et effectivement, depuis, on en parle beaucoup plus. Et en soi, c'est une bonne nouvelle. Encore une fois, l'idée, c'est pas de créer des peurs au sein de la population pour derrière, si vous voulez, créer un malaise ou quoi. Pas du tout. L'idée, c'est de proposer, encore une fois, des solutions, un nouveau contrat social, une autre manière d'habiter le monde qui soit beaucoup plus désirable. Saine et agréable.
Alors, il faut aussi quand même relativiser, Alice Desbiol, les recherches sur l'éco-anxiété ont beau avoir augmenté de 565%. Les jeunes ne sont pas tous obsédés par le changement climatique, comme le prouverait un rapide coup d'œil dans l'historique de navigation privée de Manon Mariani, qui a beaucoup plus recherché appli de rencontre qui marche que Solastalgie ces derniers mois.
Véridique.
Surtout, Manon, ce qui vous passionne, ce sont les réseaux sociaux. Ils sont votre terrain de jeu, votre mission, je le rappelle à ceux qui découvriraient l'émission, nous dénicher la tendance, le phénomène qui monte et dont les grands médias parleront demain, c'est votre veille sanitaire.
Oui, alors 500 millions de dollars, Mathieu, c'est la somme astronomique que le créateur du réseau social OnlyFans a touché en 2 ans. Alors je dis astronomique car pour une plateforme créée il n'y a même pas 6 ans qui casse complètement les codes de ce qu'on connaît, c'est une somme importante. Léo Radvinsky, de son prénom, devient aujourd'hui l'un des entrepreneurs de la tech les mieux payés d'Angleterre.
Alors maintenant, avant d'aller plus loin dans le succès, rappelez-nous ce qu'est OnlyFans.
Alors l'application OnlyFans a été créée en 2016 et en très peu de temps, elle est devenue le temple du porno. Et oui, parce que sur OnlyFans, on ne partage pas nos photos de nos vacances en train de faire de la pétanque. Non, on est sur du contenu clairement dénudé, que ce soit des photos et des vidéos. Et ce n'est pas la seule différence d'ailleurs avec les autres plateformes. L'autre point crucial, c'est que sur OnlyFans, tous les contenus sont payants. C'est-à-dire que si on veut s'abonner à un compte et avoir accès à son contenu exclusif, eh bien, il faut passer à la caisse entre 5 et 50 euros. Ça peut même aller beaucoup plus haut si on veut obtenir des photos directement sur notre messagerie privée, pardon. Alors, je suppose que personne autour de cette table n'est sur OnlyFans.
Non.
Ok, d'accord. On va dire non. Et pourtant, c'est ce que je trouve dingue. Sur 4 personnes ici, aucune n'a de compte. Ou personne ne veut le dire, n'est-ce pas, Mathieu? Alors que l'application compte aujourd'hui quand même 300 millions d'utilisateurs dans le monde. Tout le monde en parle sans honte, même Beyoncé. OnlyFans lui a d'ailleurs proposé de créer le sien, évidemment, après ce couplet. Mais faut pas non plus abuser, hein. Queen Bee reste Queen Bee. Mais vous l'avez compris, avec ou sans Beyoncé, OnlyFans c'est bel et bien entré dans la grande famille des réseaux sociaux incontournables du moment.
Alors Manon, 300 millions d'utilisateurs, d'accord, c'est beaucoup, mais comparé à Instagram qui en a 2 milliards, ça semble quand même pas grand-chose.
Non, c'est vrai, mais ce qui est intéressant, c'est que OnlyFans a réussi à totalement renverser justement les codes d'Instagram. En fait, ils ont repris le même principe, le côté payant en plus, mais à l'inverse d'Insta et de nombreuses autres plateformes qui censurent dès qu'un petit téton pointe le bout de son nez sur une publication. Exactement, c'est l'inverse. Hein. OnlyFans a fait de la nudité son gagne-pain, et ils ont bien fait, j'ai envie de dire, parce que le journal anglais The Guardian a révélé que plus de 4,8 milliards de dollars avaient été dépensés sur l'application en 2021. Je vous vois,
c'est
Quentin,
trop.
Je vous vois.
Vous êtes payé
très cher.
Et le succès de OnlyFans semble être bénéfique hein, pour tout le monde. Je vous l'ai dit, son patron est millionnaire. Et les utilisateurs sont ravis. Les influenceurs du réseau, hein, par exemple, contrôlent leur contenu de A à Z et du coup, leurs images. Et on parle quand même de sommes énormes pour certains et certaines. Par exemple, la rappeuse américaine Bad Barbie, l'une des stars du réseau, a révélé avoir gagné des millions de dollars grâce à OnlyFans. Et Et de plus en plus, de petits influenceurs très très loin du porno se mettent à avoir des comptes pour arrondir leur fin de mois. Voilà. Mais attention, si OnlyFans est devenu mainstream, faut quand même rester vigilant. Comme d'habitude, un contenu sur Internet, tel quel qu'il soit, reste un contenu qui ne disparaît jamais. Il y a toujours des failles dans ce genre d'application. Et peut-être d'ailleurs qu'il faudrait la réserver aux professionnels pour éviter toute forme de harcèlement, surtout envers les femmes. Quand on voit des jeunes filles, par exemple, à peine majeures sur l'application, cela doit nous obliger à nous poser des questions, comme d'habitude avec les plateformes. Il ne faut pas attendre qu'elles fassent de la prévention, parce que l'argent prime toujours. Mais c'est à nous d'en parler et aux familles de bien comprendre ce qu'il s'y passe.
Merci Manon de nous avoir comme ça donné des idées, peut-être, oui. Qui sait, pour nous faire un complément de salaire. Notre émission sur l'éco-anxiété continue avec Alice Desbiolles. Et pour vous remonter le moral, voici un titre qui nous annonce que tout va disparaître. Youpi, voici New Gold, Gorillaz sur Inter.
To the hills, 'cause the end is near.
Dernière ligne droite, presque une heure maintenant qu'on décrypte ce nouveau spleen moderne qu'est la solastalgie. Le concept a-t-il franchi les Alpes? S'est-il frayé un chemin jusqu'à Lausanne? On va vite le savoir puisqu'on accueille la star montante de l'humour suisse, Yann Marguet. Solastalgie.
Retrouvez les plus grands tubes de la chanson française dans leur remastering anxiogène sur Radio Solastalgie avec Le Sud.
On dirait Le Sud. Alors qu'en fait c'est le Havre,
les gencives.
De la pluie tombe sur le Pakistan. Mon pays soudain transformé en océan.
sans oublier.
M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, regarder cramer le Portugal.
Solastalgie.
Voilà Mathieu, une petite facétie, une petite amusette, une petite tarasconnade radiophonique pour introduire aujourd'hui la solastalgie, cet état de détresse psychologique causé chez certains humains par le dérèglement climatique et plus généralement par la planète qui se transforme en merde. Alors, suis-je solastalgique? Eh ben, j'en ai beaucoup discuté cette semaine avec moi-même et eh ben, on n'est pas d'accord. Voilà. Alors, on n'est pas d'accord. D'un côté, on se trouve très conscient et affecté par les problèmes de la planète et de l'autre, est-ce que vous avez regardé le spin-off de Game of Thrones? C'est pas mal cette merde. Voilà mon état d'esprit pour le moins volatile, hein, oscillant constamment entre une anxiété réelle et je boufferai bien un Twix. Quoi. Hein, je suis un peu comme Chirac qui disait au sommet de la Terre en 2002 déjà, notre maison brûle et nous regardons ailleurs, mais ah bah je me ferais bien sucer quoi. Hein. Partant de là, la réponse à ma question ci-dessus semble être assez logiquement non, moi-même, je ne suis pas solastalgique. Et pourtant, l'équation me semble un peu plus complexe que ça, hein, tant l'éco-anxiété semble constituer le mal du siècle, ou tout du moins ce qu'il en reste. Hein. C'est vrai que le 21e siècle, c'est un peu la Sagrada Familia. On l'a commencé, mais on n'est pas sûr qu'on arrive au bout. Non, moi, face à la flagrance de ce qui est en train de se passer, je me demande si on serait pas tous un peu solastalgiques à des niveaux différents, un peu comme au judo. En ceinture blanche, les personnes qui dépassent le mur du déni dans leur jet privé, coucou Kylian et Christophe. Et en ceinture noire, celles et ceux qui souhaitent mourir dès maintenant en s'immolant par le compost. Est-ce que l'humanité dans son ensemble ne serait pas actuellement finalement en gestion de ses émotions, hein, en coping, comme on dit en psychologie francophone? Bah oui, il faut quand même des stratégies pour réussir à bien négocier le début de la fin. Moi, par exemple, qui suis ceinture verte, je me sens mal des fois, mais quand j'ai pas envie de me sentir mal, j'adopte la stratégie dite des degrés de papy. Je m'explique. Tiens, Mathieu, vous connaissez le prénom de votre père?
Bah oui.
Bah oui, hein, Mathieu n'étant ni débile ni le fils de Rachida Dati, il connaît le prénom de son père. Maintenant, est-ce que vous connaissez le prénom de votre grand-père?
Oui, il s'appelle...
Oui, Gandalf, on s'en branle. C'est là que ça devient intéressant. Le prénom de votre arrière-grand-père?
Ah ben, non, je sais pas.
Eh ben voilà, eh ben moi pareil, 3 degrés de papy, et j'ai aucune idée de qui c'est le mec. Hein, à ce compte-là, ben dans 3 générations, mes arrière-petits-enfants n'ont rien à foutre de ma gueule, eh ben ils peuvent bien crever, j'en ai rien à foutre d'eux, voilà. Ah, oh, ben on se sent mieux, non? Bon, ça c'est quand je suis fâché, bien sûr. Quand je le suis pas, c'est un peu plus dur, et j'essaye de tenir en réfléchissant à la chance qu'on a. La chance déjà d'être dans un pays où on peut encore se payer le luxe d'être seulement éco-anxieux, et pas éco-complètement dans la merde, comme au Pakistan ou en Haïti. Et puis aussi la chance d'être assez vieux pour avoir vu au moins pendant un temps le monde dans l'état dans lequel il devait à peu près être quand on l'a trouvé. La chance enfin d'avoir réussi à faire sur la solastalgie un papier plus ou moins rigolo, parce que je suis pas certain qu'on en rigole encore longtemps. Merci à toutes et à tous.
Merci beaucoup Yann-Marie, on vous retrouve la semaine prochaine évidemment. Et tout de suite on retrouve Charline Vandenecker car on est très en retard, très en retard.
Mais
Charline.
Bonjour Mathieu Noël.
Bonjour.
Nous allons recevoir dans C'est encore nous, Philippe Bertrand des carnets de campagne de France Inter qu'il a animé pendant 16 ans.
Magnifique.
Il revient là, aujourd'hui, avec nous.
Tous les jours, je suis obligé de rester avec vous, tellement la programmation est qualité.
Oh là là,
c'est fabuleux.
Ville flatteur.
Merci beaucoup, Charline.